Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est un de ces foutus curés qui ont fait la révolution, selon les mots rageurs d'un aristocrate. L'abbé Grégoire est entré au Panthéon national comme un apôtre de l'égalité et de la fraternité universelle. En homme éclairé, il a plaidé la cause des Juifs dans la France du XVIIIe siècle, puis celle des esclaves aux Antilles. Comme député, il a œuvré en première ligne aux réformes politiques, religieuses et culturelles de son temps. Cependant, cette figure flamboyante reste méconnue aujourd'hui. L'historienne Françoise Hildesheimer a donc voulu remédier à ce manque en écrivant la biographie du prêtre lorrain que la convocation des États généraux en 1789 va propulser sur le devant de la scène. Et c'est un livre publié aux éditions du Nouveau Monde. Françoise Hildesheimer, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'histoire de l'abbé Grégoire, c'est celle d'un curé provincial qui arrive à Paris et rencontre un destin national grâce à la Révolution. Nous allons donc nous intéresser à sa région d'origine, la Lorraine. Ce n'est pas anodin qu'il vienne de cette province. Qu'est-ce que ça veut dire, venir de Lorraine à cette époque?
Venir de Lorraine à cette époque, c'est venir tard dans le temps au royaume de France. La Lorraine a été rattachée, c'est la dernière province rattachée avant la Corse, et c'est sa position qui est intéressante. La Lorraine est une province frontière, elle est au contact de l'Empire, elle est au contact de tous les pays du Nord aussi, et ça lui donne une ouverture qui va retentir sur la personnalité de notre personnage. Et aussi quelque chose peut-être d'intéressant pour la suite, je pense que dans ces populations, ce rattachement tardif fait qu'il n'y a pas d'enracinement d'une tradition monarchique au profit de la monarchie française. Et on verra que la position de l'abbé Grégoire face à la monarchie est quelque chose de très surprenant de la part d'un homme plutôt ouvert et sympathique qui va là développer quelque chose qui, moi, m'a surprise en travaillant sur lui, c'est-à-dire une grande violence.
Alors ça, vous allez nous en dire plus. Mais pour le moment, ce petit de la famille Grégoire est finalement un enfant des campagnes qui grandit dans une famille modeste.
Alors, c'est une famille d'artisans. Son père est tailleur. Et il va manifester certainement des dons assez précoces. On voit bien que l'enfant est doué. Et il va faire un assez joli cursus qui va l'amener, je dirais, au sommet de ce que, sous l'Ancien Régime, il pouvait espérer socialement, c'est-à-dire qu'il va devenir curé d'une paroisse en Lorraine, ce qui est un assez beau cursus social.
Alors, il est curé d'une paroisse en Lorraine et le clergé lorrain a ses particularités. C'est un clergé ouvert aux idées de réforme, assez agité même, on pourrait dire.
C'est un clergé qui est ouvert, eu égard à l'ouverture de la province, il ressent toutes les influences et tous les mouvements du temps. Et c'est un clergé intéressant, c'est un clergé instruit. Et Grégoire en est un excellent représentant. Grégoire, toute sa vie, va regretter cette période. On sent que c'est la période où il a été le plus heureux, au contact de ses paroissiens. Et ce qu'il faut comprendre, parce que ça va conditionner toute sa personnalité, c'est qu'il est à la fois un curé tridentin, un curé issu des canons du Concile de Trente. Il est totalement régulier, c'est une vraie vocation, mais c'est aussi un homme des Lumières. Il va conjuguer les deux. Un homme des Lumières, mais qui n'aimera pas du tout les philosophes des Lumières. C'est, j'allais dire, cette ambiance intellectuelle dans laquelle, malgré tout, il va se conformer et il va rapidement se faire connaître par son aptitude à la sociabilité. Et c'est peut-être ça qui, toute sa vie, va le caractériser, cet homme. Il est sociable, il veut nouer des contacts, il veut mettre les gens en rapport les uns avec les autres. C'est ça qui le passionne et c'est ça qui va finalement le mettre en lumière.
Il veut aussi être utile, c'est très frappant quand on vous lit.
Ah ben oui, tout à fait. C'est un homme des Lumières, il veut être utile à ses ouailles et il voudra être ensuite utile à la société et utile à son pays.
Par exemple, il s'intéresse aux questions d'agriculture, c'est assez classique pour les curés de l'époque.
Exactement, il s'intéresse aux questions d'agriculture, il s'intéresse à l'éducation. C'est un homme d'une curiosité universelle, il va le rester toute sa vie. Si on regarde sa bibliographie, elle est énorme. Il n'y a pas de sujet qui ne soit passé, j'allais dire, dans son champ intellectuel qui n'ait retenu son attention. Et tout de suite, il se met à travailler, à produire. Ça sera un inlassable écrivain de mémoire, de rapport, de relations sur tout sujet.
Alors, il aurait aimé être poète, cela ne
alors,
fonctionne
il commence comme ça,
pas très bien.
Il commence par faire des vers qu'il reniera par la suite. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire, mais enfin, comme tout jeune, il commence par être poète. Et puis, il tombe dans ses relations académiques sur le sujet mis au concours, puisque les académies de province lançaient des concours. Le sujet qui tombe aussi sur les particularités de la Lorraine, c'est la situation des Juifs. Or, la Lorraine était une des zones où les Juifs étaient particulièrement implantés. Et le sujet avait été porté à son attention par un de ses professeurs. C'est intéressant, ça nous met dans ce clergé éclairé. Un de ses professeurs de séminaire était quelqu'un qui va devenir célèbre à Paris. C'était l'abbé Lamourette. Vous savez, l'histoire du fameux baiser Lamourette pendant la Révolution. Et c'est lui qui, dans son enseignement, avait attiré l'attention de Grégoire sur le problème. Grégoire va reprendre le problème et produire en 1788 un mémoire qui est primé par l'Académie de Metz. Il s'agit de savoir si on peut rendre les Juifs plus heureux, améliorer leurs conditions, autrement dit les régénérer. Ce mémoire est primé, avec d'autres d'ailleurs, mais ça le met en lumière et c'est comme ça qu'il va se trouver, j'allais dire, quasiment mis sur une orbite nationale. Le curé d'Ambermesnil va devenir un des représentants illustres du clergé lorrain et va donc être élu aux États généraux.
Alors, comment se passe cette élection? Parce qu'il y a un gros enjeu pour lui à ce moment-là.
Alors, est-ce qu'il prend conscience de l'enjeu? Je ne sais pas. Enfin, bon, il est très actif. On le voit, à ce moment-là, il n'est plus dans sa paroisse. Il est à Nancy, il est à Lunéville pour les élections. Là encore, il écrit pour ses collègues du clergé. Et puis, ce n'est pas lui qui devait être élu, c'est un autre qui s'est rendu insupportable. Alors, est-ce que c'est une tactique? Je ne suis pas sûre. Grégoire est une personnalité sympathique, ouverte. Et finalement, les suffrages se portent sur lui sans qu'il ait fait plus campagne. Il se trouve élu et là, eh ben, il part pour Versailles. Adieu à sa cure, adieu à sa province. Et il le dit d'ailleurs, parce qu'il nous a laissé des mémoires dont il faudra parler, c'est un document intéressant. Mais c'est la fin de la période de bonheur de sa vie, cette période où il était au contact sur le terrain. Mais il part avec le sentiment très net qu'il y a quelque chose à faire et qu'il peut y contribuer.
Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, il prend une part extrêmement active au débat et s'impose comme l'une des grandes figures, comme l'un des orateurs qui compte, comme l'un des influenceurs sur cette scène qui est suivie par la France entière.
Ce petit curé lorrain débarque totalement inconnu à Versailles et il est un des premiers secrétaires de l'Assemblée élu, donc ce qui prouve qu'il avait su quand même se mettre en valeur. on voit tout de suite que sa parole porte. Alors, il est certainement éloquent. Et il a une pratique de la chair. Exactement. Mais il est de ceux qui se mettent en lumière et il sait aussi nouer des amitiés. C'est une de ses caractéristiques de sa personnalité. C'est cette sociabilité qu'immédiatement... Et alors, il le fait dans les clubs, il le fait à l'Assemblée. Et rapidement, il est une des voix qui compte. Je pense qu'on n'aurait pas pu le prévoir à l'avance.
Il a donc compris l'importance politique de se faire son réseau, de travailler ses sujets en dehors des assemblées publiques.
Alors, tout de suite, c'est là qu'on voit qu'il a une intelligence politique. Il a très bien compris comment influencer l'opinion, comment les clubs peuvent peser sur les délibérations de l'assemblée, même si on va jusqu'au bout en caricaturant un peu, mais comment, pour faire passer son opinion, on peut bluffer carrément. Il se révèle un politicien très habile, capable d'entraîner derrière lui.
Alors, l'un de ces premier sujet de bataille, ça va être finalement le ralliement du bas clergé.
Voilà, exactement.
Dont il fait partie, au tiers-état, qui va complètement faire exploser la répartition de la société en ordre et imposer une assemblée unique pour représenter la nation.
Un de ces foutus curés qui ont tout fait exploser, il va négocier assez habilement d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dans les plus violents. Il sait négocier, mais on voit quand il arrive à Versailles, il ne le dit pas clairement, mais on sent que ce qui a dû être un choc pour lui, c'est le style de vie de la cour qu'il a découvert et de cette partie des ordres privilégiés qu'il n'avait quand même pas directement côtoyé. On sent que pour ce curé qui était proche de ses ouailles, qui connaissait leur mode de vie, il y a eu là un choc qui va peut-être conditionner son ralliement à une révolution plus radicale. Cette cour qui lui paraît complètement surréaliste, non, c'est pas possible. C'est l'oppression des peuples. On ne peut pas continuer comme ça.
Il faut bien comprendre que l'abbé Grégoire reste prêtre et que dans son esprit, il agit toujours au nom des principes de l'Évangile. C'est la réforme, mais enracinée dans les principes évangéliques.
Ce que vous venez de dire est fondamental. Si on ne comprend rien à Grégoire, si on ne comprend pas qu'il a toute sa vie, et jusque sur son lit de mort, entretenu l'idée qu'il y avait une symétrie, voire une adéquation parfaite, entre l'idéal évangélique et l'idéal révolutionnaire. Pour lui, les deux choses sont les mêmes. Alors, c'est là qu'on voit que son sens politique est peut-être un petit peu perverti par cette utopie. Et je dirais, il n'a jamais voulu comprendre une chose, c'est que la Révolution française, c'est un idéal universel. L'Église catholique, elle est universelle. Et ce choc de deux universaux, il faut qu'il y en ait un qui cède devant l'autre. Eh bien, ça, il n'a jamais voulu l'admettre. Il a toujours pensé que les deux devaient marcher de pair. Alors, à partir de là, si on relit sa biographie sur la longueur, on va s'apercevoir qu'effectivement, il va avoir, malgré tout, même s'il n'a jamais renié cette conviction, il va avoir un certain nombre de déconvenues.
Ça va être son drame intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'il appartient à ce mouvement des Lumières chrétiennes dont on parle et quelle est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sa posture face aux philosophes qu'on associe aussi beaucoup aux prémices de la Révolution française?
Alors, les philosophes, nos philosophes classiques, il ne les aime pas. Ça, il les a lus, mais...
Non, Voltaire, non, par exemple.
Voltaire, non, pas du tout. Voltaire, il n'aime pas du tout. En revanche, ce qu'il aime dans les Lumières, c'est le mouvement des sciences, la curiosité scientifique, parler de l'agriculture, de tout ce qui peut faire un progrès. En fait, c'est une idée d'un progrès, mais il reste, il faut le souligner, et toute sa vie, il restera un prêtre catholique et soucieux de régularité. Hein. Et ça va être aussi le drame de sa vie, la rupture entre la Révolution et l'Église romaine.
Alors, d'un point de vue politique, il contribue à l'écriture de la nouvelle de la Constitution, tout simplement.
Alors qu'il se lance tout feu tout flamme, et autre chose qui est symbolique, le 14 juillet 1789, c'est lui qui préside l'Assemblée. Donc on voit bien qu'il est à la manœuvre. La Constitution, la proclamation de la République, c'est un jour de bonheur, d'exaltation totale dans sa vie. Il est à la pointe du progrès des idées nouvelles.
Vous l'aviez esquissé, en réalité, il n'est pas tellement attaché au principe monarchique, mais bien plus à celui de souveraineté du peuple. Quelle est sa conception politique ?
Alors, sa conception politique, tout à l'heure, dans votre présentation, j'ai remarqué quelque chose. Vous avez dit qu'il agissait au nom des valeurs d'égalité et de fraternité. Mais je rajouterai quelque chose. Alors, Grégoire, un aspect annexe de sa personnalité, il était un grand dessinateur de costumes et d'emblèmes. Et quand on lui a demandé de dessiner le blason de la République ultérieurement, qu'est-ce qu'il a spontanément et sans se poser aucune question dessinée ? C'est la liberté. Parce que c'est ça qui, dans sa tête tout au moins, est le guide de l'action politique générale. La révolution, c'est la liberté du peuple, la fin du despotisme, de la monarchie. Parce qu'alors c'est ça sa bête noire, cet homme qui n'est pas violent, va être d'une violence contre ce pauvre Louis XVI, qui fait que la grande question que pose sa biographie, c'est la question du régicide.
De sa responsabilité.
Dans la mort du roi. Alors, on peut en parler si vous voulez.
Tout à fait, parce que pour la postérité, c'est une question fondamentale.
C'est une question fondamentale.
A-t-il ou non voulu et voté la mort du roi ?
C'est très compliqué. Enfin, on ne va pas faire un décortiquage érudit des documents, mais effectivement, Louis XVIII, au moment de la Restauration, le traitera de régicide, mais jamais il ne le sera formellement, il n'a jamais été exilé. Pourquoi ? D'abord pour une raison simple, c'est que donc, Grégoire avait été élu aux États généraux, donc membre de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu la législative où les membres de la Constituante ne pouvaient pas être réélus. Et puis, il a été élu à la Convention. Donc, au moment du procès du roi, il est membre de la Convention. Mais il ne peut pas être considéré comme régicide parce qu'il n'était pas à Paris. À ce moment-là, il avait été envoyé par l'Assemblée comme représentant en mission en Savoie et à Nice. Donc, formellement... il n'a pas pu voter la mort du roi, il ne peut pas être régicide. En revanche, on peut se demander ce qu'il en a pensé et ce qu'il aurait fait. Alors, les représentants en mission, disons pour faire court, ont envoyé une lettre à ce moment-là pour donner leur opinion à la Convention. Alors, tout le problème, c'est que ces documents ont disparu et que les soutiens, historiens de Grégoire, on dit, oui, ils ont envoyé une lettre où ils disaient qu'ils étaient pour la mort, mais Grégoire, lui, a envoyé un témoignage disant qu'il était pour la condamnation du roi, mais pas pour sa mort. Faisons simple, Grégoire n'était pas pour la peine de mort. Il avait fait un beau discours contre la peine de mort. Mais là, je crois que, vu ce que des érudits... excellent au XIXe siècle, on a vu les témoignages qu'il y en a. Là, le roi, il l'a vu guillotiner sans déplaisir. Mais il n'est pas régicide, formellement. Je crois que cette cour de Versailles, ça l'a révulsé. Quand il a vu ce luxe, il s'est dit, non, mais le roi vit sur le dos du peuple, c'est un parasite, c'est un despote, on ne peut pas continuer. Et alors là, moi, c'est ça qui m'a surpris en découvrant ça, c'est cette violence qui est vraiment unique dans son parcours.
Parce que dans d'autres écrits, on comprend que c'est un homme...
C'est un homme généreux,
altruiste.
C'est un homme sympathique. C'est un homme de caractère quand même bien trempé, hein, qui peut être violent. Mais là, c'est vraiment l'exception qui signifie vraiment quelque chose.
Dans son idée, quel était le régime politique idéal ?
La République, ça, il n'y a pas de problème. Il a œuvré pour ça. Alors à ce moment-là,
et très tôt, d'ailleurs.
À ce moment-là, il était évêque de Blois. Il y a une lettre à ses diocésains de Blois au moment de la proclamation de la République. Il délire de bonheur, carrément.
Vous le dites, hein, il est évêque de Blois et oui. Ça amène à un autre sujet. Donc, il a contribué à la réflexion politique, mais aussi à la réflexion sur la réforme religieuse de la France, qui était un des gros dossiers, pourrait-on dire, de la Révolution. Il contribue à l'écriture de la constitution civile du clergé. C'est l'un des premiers,
oui,
c'est le premier même, à prêter serment.
Prêter serment. Mais là encore, j'ai eu une surprise.
Ah, dites-nous.
L'écriture de la constitution civile, il n'y a pas tellement collaboré. Et il n'est intervenu vraiment que sur un point qui lui tenait à cœur, et c'est intéressant, c'est pour qu'on maintienne, pour ce qui est du dogme, le lien avec Rome. Ça, il y a tenu, et c'est là qu'on voit que son ancrage ecclésiastique a été maintenu. C'est là qu'il a pesé. Le reste, je pense que c'était essentiellement des mesures d'administration financière de l'Église de France. Et ça, les finances, c'était pas son truc, ça le passionnait pas, mais il a été le premier à y jurer fidélité, un serment qu'il n'a jamais renié.
C'est intéressant ce que vous dites sur le lien à Rome, c'est qu'il considérait que le pouvoir du pape et le pouvoir du roi étaient peut-être de deux natures différentes, s'il reconnaît l'un et que l'autre, en revanche, lui semble
je pense
insupportable.
Qu'il était un gallican convaincu et que son église constitutionnel qu'il va essayer d'animer jusqu'à ce que Napoléon rétablisse les relations avec Rome, mais cette église constitutionnelle ne rompait pas le lien en matière de dogme avec Rome, ça n'a jamais été à son programme.
Alors comment évolue-t-il dans cette révolution en marche, cette révolution qui change avec parfois des lignes plus dures, des revirements
Pas facile.
Comment continue-t-il à avancer finalement? On a l'impression que pendant quelques années, il a son heure de gloire finalement au début. Et puis après, il y a une sorte d'éclipse.
Tout à fait. Alors, la question, elle n'est pas facile. On peut se poser, peut-être je vais l'aborder par un autre biais, on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de biographie sur toute la vie de Grégoire. Grégoire est né en 1750, mort en 1831. C'est extraordinaire, cette longévité, surtout dans cette période révolutionnaire. Il a vu une succession de régimes comme aucun Français ne pouvait l'imaginer. Et la toute petite, comme vous venez de le dire, période révolutionnaire, c'est celle qui a intéressé ses historiens. Or, il a quand même continué à vivre longtemps après. La question que je me suis posée, c'est... Pourquoi il n'y avait pas de biographie? Pourquoi, au moment du bicentenaire de la Révolution, on en a annoncé plusieurs, ne sont jamais sortis? Et pourtant, notre bon Grégoire est l'un des personnages de la période qui a la bibliographie la plus abondante. Il y a des études sur tout un tas de sujets, mais il n'y a pas de synthèse. Et pourtant, on ne le comprend que dans la continuité. Et c'est encore important aujourd'hui si on veut le juger. Grégoire, il est connu, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile, pour avoir écrit ses mémoires. Il a écrit ses mémoires pour se justifier, et il nous dit, mon caractère, je suis comme le granit, on peut me rompre, mais on ne me fait pas plier. Et c'est toute sa grande thèse. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est possible dans des périodes aussi troublées.
Est-ce qu'il a enjolivé le réel?
Oui. Alors, là encore, pratiquement pas. Alors, il y a peut-être, si on cherche bien, un épisode qui n'a pas été très, très glorieux pendant la Révolution, c'est la chute des Girondins. C'est la chute des Girondins, il présidait l'Assemblée, il s'est mis en retrait, il n'a pas du tout rien fait pour les précipiter cette chute, mais enfin, il s'est prudemment mis en retrait en prétextant, l'argument vaut ce qu'il vaut, ça nous fait sourire aujourd'hui, mais une providentielle extinction de voix. Bon, c'est le moment, je dirais, de ce que j'ai trouvé le moins glorieux de sa carrière, mais si on prend donc sa vie et l'intérêt de la prendre sur toute la durée, on s'aperçoit que cette période, ce démarrage de la Révolution, quasiment en fanfare, hein, où il est en pointe, petit à petit, ça va être des renoncements de plus en plus marqués au fur et à mesure que la Révolution va se développer et ensuite, j'allais dire, une sorte d'échec au moment où Napoléon va remettre, j'allais dire, le despotisme qu'il détestait tant sur le trône.
L'un des aspects de la Révolution qui va être le plus difficile pour lui, c'est toute la campagne de déchristianisation.
Ah, ça, c'est l'horreur pour lui. C'est l'horreur pour lui. Et alors là, c'est, on parlait d'un petit moment de relative lâcheté. Là, il y a un moment de grand courage.
Le 17 Brumaire.
C'est quand on vient le chercher, qu'il monte à la tribune de l'Assemblée, où il est sommé de se déprêtriser après l'évêque de Paris, Gobel, enfin tout. Et où il résiste avec là un grand courage. Et on s'aperçoit que, malgré tout, la Convention, il appartient à la montagne, notre Grégoire. Et il va pousser le courage jusqu'à venir siéger en costume épiscopal. Là, il ne capitule pas du tout. Alors, il entretient une certaine complicité avec Robespierre. Les deux hommes se respectent. Les deux hommes ont la même vision d'un dévouement à la Révolution. Puis après la chute de Robespierre, la déchristianisation se poursuit. Il va prudemment, il siège de moins en moins en séance, il va siéger dans les comités, notamment au comité d'instruction publique. Et là, il va se consacrer à des questions plus techniques. Et on ne compte pas les institutions, on ne va pas le rappeler ici, c'est bien connu, auxquelles il a contribué à les créer, à les mettre en... et auxquelles il a participé lui-même.
Alors, il y a par exemple le Conservatoire national des arts et métiers, mais aussi l'Institut de France. Qu'est-ce qui l'intéressait, l'exaltait peut-être dans ce projet ?
Alors, je pense que ce qui l'intéressait, on a parlé tout à l'heure des académies provinciales, hein, cette sociabilité...
À Metz, notamment.
Oui, à Metz et à Nancy, il a participé aux deux. Cette sociabilité, cette réunion de gens, c'est tout à fait ce qu'il aimait. Alors, il est arrivé, il y a eu la destruction des anciennes académies royales. Et un grand producteur de rapports, il a écrit là-dessus... Et ensuite, ce qui l'intéressait, bah, c'était de recréer cette sociabilité et de la mettre au service des Lumières, hein, de la mettre au service des nouvelles institutions politiques. Et tout de suite, il va se consacrer à cela, il va être un des membres. Et on va voir aussi que l'Académie des sciences morales, puis qui sera réformée par Napoléon, va être... un de ses refuges, je vous ai dit qu'il s'était réfugié dans les comités, mais aussi ses communications à l'Académie vont être pour lui un moyen, peut-être moins dangereux, de développer toute une série d'idées auxquelles il tenait.
Par exemple ?
Eh bien, notamment contre le fanatisme, contre l'Inquisition. C'est un moyen détourné de passer par la dénonciation de l'Inquisition espagnole pour dénoncer ce qui se passait.
Les déboires de son temps. Il s'engage aussi en faveur du patrimoine, pourrait-on dire, même si le mot n'existe pas encore. C'est vraiment un concept qui est en train de naître.
Alors, c'est ça qui
va naître lui-même, d'ailleurs.
C'est ça qui est extraordinaire. Dans ce contexte où il s'agit de faire disparaître toutes les traces de cet ancien régime abhorré, il a su faire une sorte de révolution intellectuelle pour dire non, mais ces traces, il faut les conserver. Mais pas pour glorifier l'Ancien Régime, mais à titre de monument historique, d'abord parce qu'il y en a déjà qui sont des objets d'art en tant que tels, et puis c'est des monuments de connaissance. Et ce patrimoine, donc le mot qu'il invente, ce n'est pas patrimoine, mais le mot qu'il invente pour le combattre, c'est le mot vandalisme. Et il est l'auteur de trois mémoires fondamentaux contre ce vandalisme, et il va permettre à Lenoir de créer le Musée des Monuments Français. Il va permettre la constitution des bibliothèques. Et il ne faut pas oublier que dans sa longue carrière, il y a eu un moment où il a été conservateur de bibliothèques, un moment où il n'avait pas
d'autres ressources.
Il a été conservateur adjoint à la bibliothèque de l'Arsenal. Enfin, tous azimuts, il va là se donner libre cours à son, à son enthousiasme, et on sent que vraiment il y a un ancrage intellectuel profond. Alors Grégoire n'est pas un grand styliste, c'est un polygraphe qui écrit sur un tas de choses et également, il faut bien le dire aussi, sur toute cause, on dirait aujourd'hui humanitaire, qui passe à sa portée, et rien ne le laissera jamais indifférent.
Et c'est par exemple la cause des esclaves à laquelle il reste fidèle toute sa vie. Qu'est-ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il obtient ?
Alors, là aussi, beaucoup de déconvenues. Il milite évidemment pour l'abolition de l'esclavage. Il l'obtient temporairement et puis il va se heurter d'abord toute sa carrière au lobby des planteurs. Au début, son grand adversaire, c'est Barnave. Et puis, le rétablissement, tout au moins partiel, de l'esclavage par Napoléon va être une terrible déconvenue pour lui. Et toute sa vie, dans son agonie, c'est extraordinaire. Il s'imagine que ses chers Haïtiens, parce qu'il s'est engagé pour la cause d'Haïti, sont venus et sont à son chevet. C'est vraiment l'idée la plus à laquelle il tient. Et ça, Napoléon va être une déconvenue, il va en être aussi une autre avec le Concordat. Mais quand même, disons à la décharge de Napoléon, qu'il a su reconnaître en Grégoire, qui était devenu un opposant à l'empereur qu'il était devenu, il a su reconnaître la valeur de Grégoire, donc qu'il appelait tête de fer, et sachant qu'homme honnête, Grégoire n'avait aucune ressource, il en a fait malgré tout un sénateur, ce qui lui a assuré des revenus décents. Il n'a pas été, et volontairement, jusqu'à le doter d'une sénatorerie qui lui aurait fait un patrimoine, mais il lui a assuré un train de vie décent et une possibilité de continuer à exercer son opposition, parce qu'il va continuer à être opposant. Il est opposant au sacre, il est opposant à tout, mais ça n'empêchait pas, par exemple, Napoléon de le recevoir à la Malmaison.
Et alors, Napoléon, vous l'avez dit, a signé ce fameux concordat avec le pape, qui fait un choix mais totalement opposé idées de Grégoire.
Je veux dire qu'il lui a fait un enfant dans le dos. C'est épouvantable. Grégoire s'était imaginé, ce qui était naïf, Grégoire, il était honnête et naïf. Il s'était imaginé, malgré tout, que ses bonnes relations avec Napoléon, sans renier ses convictions, mais ferait qu'il serait son conseiller pour les affaires ecclésiastiques. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, que son champ d'action se restreignait, il s'était concentré sur la mise en place d'une église constitutionnelle avec son clergé de jureur à la Constitution civile. Mais Napoléon, tout de suite, s'est dit non, ça ne peut pas. Il faut rétablir le lien vraiment avec Rome. Et il n'a pas choisi Grégoire. Il a choisi quelqu'un qui était infiniment moins honnête, mais beaucoup plus politique, qui était l'abbé Bernier. Et Grégoire a été informé quelques heures avant la signature du concordat. Et l'aventure de l'Église constitutionnelle s'est arrêtée net. Et on était en plein concile national. Ça s'est arrêté sur une messe funèbre qui a vu la fin des prétentions de Grégoire. Napoléon a repris la plupart, malgré tout, des dignitaires de l'Église, sauf Grégoire qui était trop mouillé dans l'affaire et qui, jusqu'à la fin de sa vie, continuera à signer ancien évêque de Blois. Là encore, il ne s'est pas couché.
Donc il a continué à revendiquer ce titre,
son idéal ecclésiastique. Oui, oui.
Alors que se passe-t-il pendant toutes les années qui suivent, parce qu'il meurt en 1831, si les historiens ne s'y sont peut-être pas tellement penchés, est-ce que c'est parce que ce sont des années ennuyeuses ?
Alors, pour lui, c'est évidemment moins agité, mais ça montre bien sa personnalité. Il continue à travailler, il produit, et alors il voyage aussi. Et le plus heureux des hommes, il l'est quand il est reçu dans des communautés juives ou en célèbre, parce qu'il est quand même devenu célèbre. Il devient en quelque sorte le fossile de la Révolution. C'est le vieux révolutionnaire qui n'a pas renié ses idées, qui continue à les proclamer. Il dit, quand il est élu au Sénat, il dit « je parlerai république ». Et jusqu'à la fin de sa vie, il assure cet idéal. Sur son lit de mort, il refusera toujours de renier son serment à la Constitution civile. Eh bien, il meurt au début de la monarchie de Juillet. Et son enterrement, c'est encore le prétexte d'une de ses manifestations d'opposition libérale à la monarchie. Il est devenu un des représentants, je dirais, les plus purs et les plus honnêtes de l'idéal révolutionnaire.
Est-ce que les pouvoirs en place, à commencer par Napoléon pendant ces périodes-là, ne l'ont pas un peu utilisé pour finalement réconcilier les Français et laisser une place à ceux qui restaient attachés aux idées de la Révolution dans un pays extrêmement divisé ?
On voit ça aujourd'hui où on aurait, vous parliez d'influenceurs, n'avait pas les moyens de rayonner à ce point. Grégoire est resté dans un tout petit cercle d'amis. Je ne pense pas qu'on puisse voir les choses comme ça. C'est aujourd'hui que c'est intéressant de voir comment il est vu.
Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de l'abbé Grégoire dans cette vie qui est extrêmement riche ?
C'est quelque chose qui me frappe, c'est qu'il nous démontre qu'il existe bien encore en France aujourd'hui une gauche et une droite. Vous parlez de l'abbé Grégoire, vous avez quelqu'un qui vous dit « Oh, quelle horreur !» Vous savez qu'il n'est pas de gauche. Vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, l'abbé Grégoire, oui, c'est un... » Bon, parce que l'abbé Grégoire, il a quand même... aujourd'hui, une rue dans la plupart des villes. Mais son problème, ce n'est pas la droite, c'est surtout vis-à-vis de la gauche, aujourd'hui, qui a un décalage complet. Grégoire, on le voit en historien, il faut le remettre dans sa période, en homme de son temps. On parlait tout à l'heure des Juifs, on disait qu'il fallait les régénérer, mais à terme, l'idée de Grégoire, c'était de les convertir au catholicisme. Les esclaves libérés, il fallait en faire, évidemment, de parfaits chrétiens. Mais ça, on ne peut pas lui reprocher, de même qu'il ferait hérisser les cheveux de nos féministes, parce que Grégoire, au fond, je vous ai dit que toutes les causes qui passaient à sa portée, il les embrassait, mais il y en a une qu'il a totalement ignorée, parce que ça ne pouvait même pas être une cause, c'est les femmes. La moitié de l'humanité, il est passé à côté. Alors, si, il a écrit sur la condition des femmes. Mais la condition des femmes, c'est des épouses, c'est des éducatrices, c'est éventuellement des soignantes, c'est tout. Dans son testament, ses dernières dispositions, il prévoit que son corps, son cadavre, ne devra pas être touché par des mains de femmes. Enfin, bon, là, on voit qu'il est vraiment l'ecclésiastique de son temps. Donc, de là à déboulonner sa statue... Après y avoir de même que ce qui alors lui est le plus reproché aujourd'hui, c'est la question des patois. Grégoire, dans les mémoires qu'il a produits, en a produit un pour l'unification linguistique de la France, pour l'usage du français aux dépens des patois. Alors aujourd'hui, ça paraît contraire
nous dit, aux identités régionales.
On disait tout à l'heure l'homme du patrimoine. Et il faut là aussi se replacer dans cette idée, c'est qu'au début de la Révolution, on avait essayé de traduire les textes de loi dans tous les patois. Impossible. Donc l'idée, c'était qu'il fallait rendre intelligible l'œuvre de la Révolution et qu'il fallait aussi, j'allais dire parler français, c'était un moyen de promotion sociale. Donc Grégoire a peut-être été un petit peu violent pour les patois. On n'a peut-être pas vu la valeur patrimoniale comme on la voit aujourd'hui, mais son idée, elle était cohérente et on va la retrouver dans toute la politique, évidemment, d'éducation publique de la Troisième République.
En tout cas, c'est ce personnage qui a été choisi lors du bicentenaire de la Révolution française en 1989.
Non sans problème avec l'Église catholique, puisque Mgr Lustiger a refusé d'assister à la cérémonie au Panthéon.
Oui, exactement, pour que ses cendres soient portées au Panthéon, alors qu'un autre évêque, quelque temps plus tard, à Blois, lui, l'a réintégré dans la liste de ses prédécesseurs.
Oui, je pense que c'était une sage décision qu'a pris Mgr de Germigny, qu'il a réintégré à l'ordre du diocèse, ce qui venait mettre un terme à une querelle qui n'avait que trop duré.
Peut-être pour finir, nous pourrions revenir sur un mot qui se trouve à de nombreuses reprises dans votre livre, un mot tout à fait du XVIIIe siècle, c'est le mot de bonheur. Est-ce que l'abbé Grégoire a été heureux ? Est-ce que c'était d'ailleurs une de ses prétentions, une de ses envies ?
Alors c'est une question qu'on se pose et il en parle dans ses mémoires. J'ai pris mes titres de chapitre sur ce thème justement. Alors... le bonheur, oui, évidemment, c'est une idée du temps. L'idée d'un bonheur individuel, il se pose la question. Et il nous dit, je n'ai jamais été, ce qu'on a dit, si heureux que dans ma période de Lorraine, et le bonheur m'a quitté quand je suis entrée dans les affaires publiques. Bon, il y a peut-être une idée de sacrifice qui serait tout à fait cohérente avec sa formation. Est-ce qu'il a été heureux ? Je pense qu'il a eu le sentiment d'avoir œuvré à l'avènement d'un monde nouveau, même si, au fond, ce monde nouveau ne lui a pas donné tout à fait satisfaction. Ce monde nouveau, il aurait voulu que ce soit le monde des béatitudes, le monde de l'Évangile. C'était ça, son rêve, son utopie, et il l'a toujours eu à l'esprit, il l'a toujours voulu, et c'est en ça qu'il est touchant.
Ce qui est frappant, pour en finir vraiment, c'est qu'il élargit sans cesse les horizons et ne reste pas cantonné aux problématiques de sa province, ni exactement, de sa condition. Il va toujours chercher plus loin une humanité commune.
Il cherche à englober tout le monde dans une notion d'humanité qui est une espèce d'universel absolu pour lui.
Eh bien, un grand merci, Françoise-Hilde Semer. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'abbé Grégoire, une tête de fer en révolution, selon l'expression de Napoléon. C'est aux éditions Nouveau Monde. Merci et à bientôt.
Merci à vous.